Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode d'Elisabeth Vigée-Lebrun, Les couleurs de l'émancipation, la jeune peintre s'est fait un nom à Paris dès l'âge de 14 ans. Pour fuir son beau-père tyrannique, elle a épousé un marchand d'art qui dilapide sa fortune. Mais la peintre n'est pas attachée au matériel. Elle ne vit que pour la peinture et compte toutes les cours parmi ses clients. La reine Marie-Antoinette adore son travail. En 1786, la portraitiste peint la souveraine en robe de Gaulle, une robe d'intérieur. Épisode 2, une carrière internationale. Nous sommes au salon organisé par l'Académie royale de peinture au Louvre en 1786. Tout Paris se presse devant la toile de Madame Vigée-Lebrun, sur laquelle on peut voir la souveraine en légère robe de mousseline. C'est un scandale. La reine en robe de Gaulle? Sa majesté en chemise d'intérieur? Mais c'est presque de la pornographie. Mais il faut reconnaître que le tableau a autant de détracteurs que d'admirateurs. Quelques semaines après l'ouverture du salon, les amis d'Elisabeth viennent la chercher chez elle. Ils ont une surprise pour elle. La peintre se laisse conduire au théâtre où on joue la Réunion des Arts. Elle découvre avec surprise que son tableau a inspiré une pièce. Lorsque l'actrice qui joue son propre rôle commence à peindre la reine en robe de Gaulle sur scène, tous les spectateurs se tournent vers la portraitiste et l'applaudissent. Elisabeth est émue aux larmes. Elle est plus à la mode que jamais. Même si la reine aime son scandaleux portrait, elle en commande un beaucoup plus conventionnel à sa portraitiste. Elle pose cette fois dans une robe moirée bleu-gris, ses cheveux blonds poudrés sous un chapeau de cour. L'année suivante, en 1787, Elisabeth expose un autre tableau de Marie-Antoinette au salon. Cette fois, la reine est représentée confite dans son bonheur maternel avec ses trois enfants. La toile est un véritable succès et Louis XVI reçoit la peintre en personne pour la féliciter. Mais certaines mauvaises langues fustigent déjà la reine, celle qu'on appelle Madame Déficit. La révolution se prépare. Elisabeth sent le monde changer brutalement autour d'elle. À la cour, une partie des aristocrates boude ostensiblement la reine. Certains montrent de la sympathie envers les idées anticléricales et républicaines. Les pamphlets et les libelles contre la famille royale sont de plus en plus violents. En tant que portraitiste de la reine, Elisabeth n'est pas épargnée. En 1789, elle s'installe dans une jolie maison rue du Gros Chênet dans l'actuel 2e arrondissement de Paris. Elle constate que des sans-culottes grossiers viennent jeter du soufre dans sa cave par les soupiraux ou l'insulter quand elle passe devant une fenêtre. Cette violence la mine. Ses amis se font molester dans les rues par le peuple. Plus personne n'a le cœur à la fête. Le 1er septembre 1789, Elisabeth se trouve à Louveciennes, chez la Du Barry, l'ancienne favorite de Louis XV qui lui a commandé son portrait. Depuis le château de sa cliente, elle entend des coups de canon. Son sang se glace. La Du Barry semble peu émue. Prisonnière de ses souvenirs, elle imagine que son Louis XV n'aurait jamais laissé de tels débordements se produire. Terrifiée, Elisabeth ne reviendra plus jamais à Louveciennes où elle abandonne sa toile inachevée. Dévorée par des crises d'angoisse, Elisabeth est hébergée le soir même chez son ami l'architecte Brognard, où on la choie en la nourrissant de bouillon et de vin de Bordeaux. Les Brognards habitent près des Invalides. Le lendemain, le 2 septembre, Monsieur de Sombreuil, le gouverneur de cet établissement, est fait prisonnier et tué par une émeute populaire. Les révolutionnaires forcent sa fille à boire un verre de sang recueilli sur les corps des prisonniers. Elisabeth est bouleversée par cette violence et songe à fuir en Italie. Elle profite de l'absence de son mari au domicile conjugal pour empocher directement les 100 louis versés par le lieutenant général des armées du roi et député de la noblesse, bailli de Crussol, dont elle vient de faire le portrait. Cet argent lui sert à préparer son émigration. Alors qu'Elisabeth commence à remplir ses malles pour fuir Paris avec sa fille Julie et sa gouvernante, une foule de gardes nationaux fait irruption chez elle. Elle a peur, mais tente de le cacher à cette milice citoyenne faite d'hommes grossiers à moitié sous. Ils sont venus l'intimider et assurer à la citoyenne Vigée Lebrun qu'elle ne quittera pas Paris. Elisabeth affirme qu'elle est libre et qu'elle fera ce qu'elle voudra. Les miliciens quittent sa maison en la laissant tremblante. Ses voisins se précipitent chez elle et la poussent à quitter Paris aussi vite que possible en prenant une diligence et non sa propre voiture. Elle achète immédiatement 3 places. Le départ aura lieu le 5 octobre, un jour funeste pour la famille royale. Alors qu'Elisabeth quitte Paris, elle remarque que les faubourgs de la ville sont vides. La foule est allée assister au retour du roi et de la reine à Paris. La veille, sous une pluie battante, des femmes ont marché jusqu'à Versailles pour escorter le boulanger, la boulangère et le petit Mitron jusqu'à la capitale. Le peuple a faim et la royauté vacille. Devant les barrières du trône, une des frontières de Paris, Élisabeth fait ses adieux à son mari. Dans la diligence, elle serre sa fille entre ses bras pour la protéger d'un vieil homme louche et puant assis en face d'elle et d'un jacobin qui chante les louanges de la Révolution. Ironie de la situation, l'homme évoque les tableaux de Madame Vigée Lebrun avec une certaine admiration, sans savoir qu'elle est assise en face de lui. Élisabeth préfère garder son identité secrète, elle se méfie trop des révolutionnaires. Après un périple long de plusieurs semaines, Élisabeth franchit les Alpes. La douleur d'avoir quitté son pays en crise est atténuée par les splendeurs des villes italiennes dont elle découvre les chefs-d'œuvre, comme à Turin et à Florence. Arrivée à Rome, elle est accueillie par M. Ménageau, le directeur de l'Académie de France, une institution qui accueille les artistes français. Ménageau l'aide à trouver un logement et lui fait découvrir la chapelle Sixtine. Élisabeth est bouleversée par cette œuvre colossale. Mais elle ne peut pas passer tout son temps à faire du tourisme. Elle doit gagner sa vie pour nourrir sa fille et sa gouvernante et envoyer de l'argent à son mari qui lui en réclame sans cesse. Rome est l'un des points de chute des Français en exil, mais la portraitiste se garde de fréquenter les Polignac, une famille qui a longtemps reçu les faveurs de la reine. Elle tente ainsi de se prémunir contre les calomnies. Elle aussi peut être considérée comme une favorite de la reine. D'ailleurs, elle a ouï dire que Louis XVI ne voulait plus être peint par quiconque à part elle. Un bel honneur, certes, mais qui la rend suspecte aux yeux des révolutionnaires. Alors mieux vaut se faire discrète. Pendant 3 ans, Élisabeth mène une vie fondamentalement libre en Italie. Elle visite seule tous les musées pour s'imprégner du style des grands maîtres, travaille pour gagner sa vie, fréquente les salons des aristocrates français émigrés ou des étrangers en goguette. Comme elle est déjà très connue, les commandes viennent naturellement à elle. En peignant Lady Hamilton, une aventurière anglaise mariée à un lord, elle explore un style plus personnel et novateur. Elle représente son sujet en Bacchante, ces femmes de la mythologie gréco-romaine qui suivaient le dieu du vin Bacchus et étaient prises de mania, une sorte de folie extatique qui les faisait danser presque nues. Mais le sujet n'est pas une scène de mythologie classique qui permet au peintre de représenter une certaine sensualité sans être censuré. Il s'agit bien de Lady Hamilton, dansant devant le Vésuve fumant, les cheveux flottant au vent dans une robe à la grecque. Pour l'époque, c'est très subversif. En plus, Élisabeth montre les dents de son modèle qui sourit bouche entrouverte. Dans la tradition picturale académique, on ne peint pas les bouches ouvertes. Il y a quelque chose de trop intime à cela, d'autant plus que les gens ont souvent de mauvaises dentitions. Mais Élisabeth s'est inspirée des bouches entrouvertes des statues antiques. On parle de statues qui respirent. La portraitiste veut faire des peintures qui respirent aussi, et même des peintures dans lesquelles il y a de la joie. Elle s'était déjà fait remarquer à Paris pour cette audace en montrant notamment les jolies dents blanches de Gabrielle de Polignac, la meilleure amie de Marie-Antoinette. L'exil décuple le succès de Madame Vigée-Lebrun qui devient une artiste internationale. Lors de son voyage dans le royaume de Naples, elle peint avec beaucoup d'émotion la reine Marie-Caroline, la sœur de Marie-Antoinette et ses filles. Moins soumise à la pression de l'étiquette, le règlement de la cour française, elle donne de plus en plus d'âme à ses tableaux et met en valeur la féminité triomphante de ses modèles entre la gravité de la majesté et la douceur de la sensualité. Les années passent. En France, la terreur a baigné de sang les pavés parisiens. Le général Bonaparte s'impose progressivement comme le nouvel homme fort du pays et Élisabeth entame une tournée dans les cours européennes, toujours accompagnée de sa fille et de sa gouvernante. À Vienne, elle continue sa spécialisation dans le portrait féminin, toujours plus intime et joyeux, loin des canons académiques, tout en conservant la virtuosité. À la table du prince Konitz, elle rencontre l'écrivain et aventurier Giacomo Casanova, déjà vieillissant, mais toujours enjôleur et plein d'esprit. En 1795, elle arrive à Saint-Pétersbourg. Elle a tout juste 40 ans. Cette ville est pour elle un enchantement. La cour de la grande Catherine l'accueille à bras ouverts. La princesse Natalia Kourakine, issue d'une des plus grandes familles de Russie, devient une de ses proches amies. Elle la peint dans une tenue bohème, souriante, un livre de musique à la main. Suivant l'exemple de la princesse, toutes les duchesses commandent des tableaux à la française. Élisabeth les pousse à poser cheveux dénoués, une épaule nue pour les plus jeunes, ou avec leur chien sur les genoux. Pourvu que ces dames se sentent libres et belles. Le succès d'Élisabeth lui attire l'inimitié de Platon Zouboff. Le très jeune favori de l'impératrice fait courir le bruit que les peintures de Madame Vigée-Lebrun sont indécentes. Convaincue que la critique colportée par Zouboff vient de Catherine II, la portraitiste s'empresse de peindre des manches pour couvrir les bras nus de ses modèles sur deux de ses tableaux en cours. Elle rhabille littéralement ses modèles pour les rendre plus décents. Mais lorsqu'elle découvre la vérité, elle a le sentiment d'avoir gâché son travail. L'impératrice Catherine n'a jamais critiqué l'étoile d'Élisabeth. Platon Zouboff a essayé de la déstabiliser pour favoriser un autre portraitiste de la cour, Johann Baptiste von Lampi, afin que les nobles lui passent commande, à lui et non à la française. Or, Lampi n'a aucune animosité envers Élisabeth, dont il apprécie le travail, et il n'est pas le seul. Après la mort de l'impératrice, la nouvelle tsarine Marie Féodorovna commande aussi son portrait d'apparat à la française. Élisabeth est au sommet de sa gloire quand une nouvelle venant de son pays natal va la bouleverser. Le consulat a mis fin à la période révolutionnaire. Napoléon a été désigné premier consul. Il est temps de panser les plaies du pays. La liste des émigrés bons pour l'échafaud dont faisait partie la citoyenne Vigée-Lebrun est abolie. Elle songe donc à rentrer dans son pays après 12 ans d'absence. Mais Élisabeth rentrera seule. À son grand désarroi, sa fille adorée Julie s'est entichée d'un Russe, le secrétaire du directeur du Théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. La peintre considère que son gendre est un mauvais garçon, mais surtout, elle constate que sa fille ne marchera jamais dans ses pas. Elle ne deviendra jamais peintre et ne recherche ni la reconnaissance, ni l'émancipation. Cette divergence crée une brouille définitive entre la mère et la fille. Élisabeth retrouve Paris en 1802. Le monde a changé. Désormais, l'académie de peinture devenue républicaine est interdite aux femmes. En revanche, celles-ci ont gagné le droit de divorcer. Après un bref retour à la vie commune, la portraitiste se sépare officiellement de son mari. Élisabeth a passé les 50 ans. Sa vie se partage maintenant entre la France et différentes villes d'Europe où elle est conviée pour peindre. Toujours proche du pouvoir, elle immortalise Caroline Murat, la sœur de l'empereur Napoléon devenue reine de Naples. Mais son vrai retour en grâce se fait pendant la Restauration, sous Louis XVIII, le frère de Louis XVI, revenu au pouvoir en 1815. ces tableaux de Marie-Antoinette sont réaccrochés à Versailles. Le temps passant, la jeune portraitiste du tout Paris est devenue une vieille dame. Elle vit entre sa maison de Louveciennes et la capitale. Le siècle est devenu si misogyne, il a renvoyé les femmes talentueuses au foyer. Alors elle contourne les interdits de l'académie en formant les jeunes filles à la peinture dans sa propre école d'art, mais aucune virtuose n'en sort. Élisabeth Vigée-Lebrun, dans son grand âge, n'est plus que le témoin silencieux de son monde qui s'étiole. Elle a vu mourir le roi et la reine de France, passer l'Empire, enterrer son frère et même sa fille chérie. Elle meurt le 30 mars 1842 à l'âge de 86 ans, en laissant derrière elle une œuvre colossale, novatrice, joyeuse et profondément libre. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Élisabeth Vigée-Lebrun, Les couleurs de l'émancipation. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Ce récit a été réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Si vous voulez en savoir plus sur le sourire, la plus grande innovation picturale d'Élisabeth Vigée-Lebrun, retrouvez mon article dans Madame Figaro ou sur l'application du Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Julien Tarot. Il a aussi composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin de l'identité visuelle. À bientôt au cœur de l'histoire.